Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Il connaît tous les dessous de la politique.
L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Bon jeudi, malgré tout. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline en quarantaine, dans la crise actuelle, les gouvernements se cassent la tête pour imaginer des aides monétaires aux citoyens. Certains estiment que si un revenu minimum garanti existait déjà, ben ça serait bien plus facile. On en discute avec l'ancien ministre libéral François Blais, redevenu professeur de sciences politiques à l'université. Ensuite, l'école à la maison. Et plusieurs ont dû s'y mettre avec la crise du COVID-19. Et ceux qui le faisaient déjà, leur quotidien est-il bouleversé? Ont-ils des conseils aussi à donner aux parents qui se retrouvent à domicile avec des enfants dont les écoles sont fermées? Je pose ces questions à Marine Dumont de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Mais d'abord, il y a un compteur en télétravail avec nous au bout du fil.
Arriva Gigi Lamoroso.
Et bonjour Jean-François Gibault.
Bonjour Antoine.
Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail et qui suit les actualités COVID-19. Et on constate que le Québec semble être vraiment plus touché que les autres provinces canadiennes.
Ben oui, Antoine, puis c'est préoccupant parce qu'on ne semble pas être capable de mettre le doigt sur le bobo, sans mauvais jeu de mots, là, c'est-à-dire que visiblement, au niveau de la santé publique, on a de la difficulté à préciser pourquoi les chiffres du Québec sont un petit peu plus inquiétants que les chiffres des autres provinces. Alors, hier, une des choses qu'on voulait vérifier, c'était le nombre de tests positifs. Parce qu'on a vu qu'au Québec, on s'est mis à tester beaucoup plus. Donc, c'est normal, quand on fait passer plus de tests aux citoyens, maintenant, on est rendu à plus de 35 000 tests au Québec, ben, c'est normal qu'on ait plus de résultats positifs. Alors, ce qu'on regarde, c'est il y a combien de tests positifs en proportion du nombre de tests total qu'on fait passer. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au Québec, en date d'hier, là, un test sur 23 était positif. Alors qu'en Ontario, c'est un test sur 53 qui est positif. En Alberta, c'est un Albertain testé sur 85 qui est testé positif. Alors, on essaie de comprendre mais pourquoi les gens testés au Québec sont plus souvent atteints par le COVID-19.
Mais ça, là, est-ce que les autorités ne l'ont pas expliqué? Je pense à Horacio Arruda qui a dit qu'on ciblait finalement mieux les gens qui reviennent de voyage puis les gens qui ont des symptômes?
Voilà. Au début, pour avoir un test, il fallait avoir les deux critères suivants. Revenir de voyage et avoir des symptômes. Et on nous disait, par exemple, qu'en Alberta, ils ont fait des campagnes de dépistage un peu aléatoires, là, où on s'installait, par exemple, à un endroit public, puis on testait les gens. Donc, c'est sûr que quand on profile les voyageurs avec symptômes, on a plus de résultats que les endroits où on y va de manière aléatoire. Bien que les tests aléatoires, Antoine, ça a fait sa preuve, notamment du côté de la Corée du Sud, où en faisant énormément de tests au début, ils ont eu des bons résultats. Mais on ne s'explique pas pourquoi, par ailleurs, en Ontario, les résultats sont plus encourageants qu'au Québec, parce que l'Ontario aussi aurait fait du profilage au niveau des tests. Bon. Et là, le docteur Arruda nous a dit, mais de toute manière, les tests, bon, dépendamment qui on teste, la quantité qu'on fait, on est mieux de regarder le taux d'hospitalisation. C'est peut-être une meilleure indication parce qu'évidemment, quand on s'en va à l'hôpital avec une situation grave, ben là, tester, pas tester, c'est un indicateur assez précis du niveau de contamination d'une population. Et là encore, les chiffres sont inquiétants, Antoine. En Alberta, on avait un taux d'hospitalisation de 0,43 personnes par 100 000 habitants. C'était 0,27 en Ontario. Et c'était 0,78 au Québec. Ça, c'était avant hier. Okay. Hier, c'était 0,92. Aujourd'hui, c'est 1,24. Et là, on se trouve avec un taux d'hospitalisation donc qui est plus élevé qu'ailleurs. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'éléments de réponse à ce sujet-là. Est-ce que c'est parce qu'on a une population qui est plus vieille? C'est difficile. Est-ce que c'est à cause des foyers de contagion dans des qui ont touché des clientèles plus vulnérables? On ne le sait pas encore.
C'est vraiment un mystère, hein?
Oui, ce qu'on sait, c'est que c'est...
Mais tu sais, ça fait des semaines qu'on se pète les bretelles en disant qu'on gère beaucoup mieux la crise, que M. Legault est à l'avant-plan, puis tout ça, puis qu'on a commencé l'éloignement physique bien avant les autres, ou bien avant que les courbes augmentent, mais le résultat semble ne pas être au rendez-vous.
Bien, est-ce que le Québécois moyen, Antoine, est obéissant? C'est peut-être ça aussi la question. Est-ce qu'on est discipliné? Est-ce qu'on pense encore que c'est un problème qui touche juste notre voisin, que nous, c'est pas grave si on va visiter la famille, si on fait un petit party? Je ne sais pas si on est très obéissant collectivement. Et c'est peut-être ça aussi l'explication. Le temps, j'imagine, va nous le dire, mais les chiffres d'aujourd'hui, écoutez, le nombre d'hospitalisations, on est passé de 67 à 106 en une journée. C'est quand même une augmentation qui est appréciable.
Ben oui. En tout cas, moi, je vais me faire tester cet après-midi parce que j'ai les deux conditions initiales. Je suis revenu de voyage de 14, puis j'ai eu des symptômes.
Quelques symptômes, toi, de rhume ou de grippe, bon, évidemment, on te le souhaite pas.
Non.
Le cas échéant, Antoine, tu seras admissible, je te l'annonce, au moins, aux 2 000 $ par mois promis par le gouvernement fédéral. On en a parlé un petit peu hier.
Si je perds mon emploi ou non? C'est si je perds mon emploi.
Ah ben là, c'est parce que si t'es malade, si t'es atteint, tu y as droit.
OK.
Alors, ben, c'est parce que...
Donc,
c'est
là, après que j'ai épuisé mes congés de maladie, mettons.
Exactement. Okay. Et là, ton exemple est vraiment parlant, Antoine, parce qu'on a été envahi des centaines et des centaines de courriels concernant le programme fédéral. Ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, vous aviez un gros double page pour vous renseigner sur les modalités du programme. Alors, ça amenait les gens à nous écrire parce qu'ils ont de la misère à avoir des réponses du côté gouvernemental. Mais essentiellement, ce que ça prend, on le répète, si une personne a perdu son emploi, doit quitter son emploi parce que son enfant, par exemple, n'a pas de garderie et n'est plus à l'école, doit s'occuper d'une personne qui est infectée, toutes les personnes dans ces cas-là, c'est 2 000 $. Mais là, évidemment, on rentre le diable et souvent dans les détails. La nouvelle prestation, par exemple, de 2 000 $ est plus généreuse que la prestation de plusieurs chômeurs. Donc, là, dans ce cas-ci, ben, tant mieux pour les gens qui avaient une prestation de chômage un peu moindre, ils seront admissibles aux 2 000 $. Et là, il faut bien comprendre, les gens qui perdent leur emploi aujourd'hui doivent aller à l'assurance-emploi s'ils sont admissibles parce que le comptoir pour gérer la nouvelle prestation fédérale va ouvrir le 6 avril. Par contre, quand le système sera en place, tout le monde va devoir se diriger vers le comptoir du nouveau programme d'urgence fédérale et non pas vers l'assurance-emploi.
Ah oui?
Les deux programmes vont être arrimés. Et maintenant, inquiétez-vous pas, si vous avez des prestations de chômage qui s'étiraient sur une plus longue période, vous allez les conserver. On a aussi, par exemple, les personnes qui étaient en congé de maternité, donc qui ne travaillaient pas. Et vous êtes admissibles également si vous étiez des prestataires d'autres prestations et au moment où les prestations en question se terminent. Donc, c'est des questions comme ça qui se multiplient. Par contre, les employés des services essentiels, on a beaucoup de questions relativement à ça. Par exemple, je suis infirmière et j'ai peur pour ma santé. Mon employeur, évidemment, ne m'a pas remercié. Je n'ai pas d'enfant à ma charge, je n'ai pas de symptômes. Est-ce que je peux avoir le 2 000 $? Bien là, la réponse, c'est non. Évidemment, il faut quand même avoir une perte de revenus qui est reliée à un contexte extérieur pour pouvoir avoir le 2 000 $. Puis évidemment, il y a toujours les questions très difficiles qui se posent, c'est-à-dire les gens qui sont dans les soins de santé, on en a besoin pour soigner nos malades. En même temps, c'est très facile de comprendre qu'une personne peut être inquiète, surtout qu'on entend de tous les côtés aujourd'hui qu'il manque un peu d'équipement à certains endroits. Les gens disent on n'a pas de masque, on n'a pas de visière, les protocoles n'ont pas été revus avec la nouvelle situation. On peut comprendre les personnes d'être très inquiètes.
Si, je connais quelqu'un, moi, qui travaille au Grand Théâtre de Québec, et puis, évidemment, les spectacles ont tous été annulés, il est étudiant, est-ce qu'il aurait accès au fameux programme fédéral, la prestation là, d'urgence fédérale?
Bon, pour un étudiant, la première des choses, c'est d'une personne qui devait avoir au moins 5 000 $ de revenus en 2019. Premier critère. Alors, s'il avait plus de 5 000 $ de revenus, critère numéro un est rempli. Deuxième critère. Donc, il travaillait, cette personne-là travaillait au Grand Théâtre de Québec. Les spectacles sont annulés. Donc, si je comprends bien, il n'a plus de revenus à cause de l'annulation des spectacles.
Absolument, oui.
Ben, si c'est bien le cas, bonne nouvelle pour lui, il est admissible aux 2 000 $ par mois.
Bon, ben, je vais lui dire. Merci beaucoup, Jean-François Gibault.
C'est un plaisir, Antoine.
Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI, en télétravail, mais super efficace pareil. Alors, à très bientôt. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline.
La politique autrement dit. Cube Radio.
Alors, au bout du fil, il y a François Blais, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Bonjour.
Bonjour.
Et ancien ministre de l'Éducation, entre autres. on vous rejoint, vous êtes en télétravail, vous aussi, comme la plupart des Québécois.
Oui.
Mais vous êtes spécialiste de revenu minimum garanti, allocation universelle. On fera peut-être les distinctions tout à l'heure. Alors, dans la crise actuelle, là, les gouvernements se cassent la tête pour imaginer des aides monétaires aux citoyens. Certains estiment qu'un revenu minimum garanti, s'il était déjà en place, ce serait plus simple. Il y a Vincent Marissal, par exemple, de Québec solidaire, qui l'a dit à ce micro. En entrevue à la presse canadienne, ben, Philippe Couillard aussi l'a dit, votre ancien chef. Alors, vous qui plaidez pour ça depuis longtemps, qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions?
Ce qui est intéressant à remarquer en ce moment, c'est que les gouvernements ont une disposition financière, mais ils cherchent le médium hein, pour passer cet argent-là puis le diriger vers les Québécois, vers les Canadiens.
Oui.
Alors, au Canada, par exemple, si vous voulez aider les familles, ben c'est pas trop compliqué. Vous avez une allocation familiale qui est presque universelle, d'ailleurs. Et si vous décidez d'aider les familles, ben vous allez augmenter cette allocation familiale. Au Québec, si vous voulez aider les personnes un peu plus défavorisées ou les revenus moyens faibles, vous avez le crédit d'impôt de solidarité. Vous pourriez décider d'augmenter le crédit d'impôt de solidarité. C'est versé à tous les mois à au moins à 2 millions de Québécois, sinon plus. Alors, il y a des mécanismes comme ça qui sont mieux adaptés et d'autres, comme on voit très bien l'exemple avec l'assurance emploi, moins bien adaptés, plus lourds, très conditionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'essayer d'avoir des mécanismes plus universels. On a un régime universel d'assurance santé.
Oui.
On se pose pas la question, on le finance par nos impôts. Alors oui, bien sûr, si on avait un régime universel de sécurité du revenu ou plus universel, les choses seraient plus simples, certainement, que ça ne l'est aujourd'hui.
Ce serait une sorte de revenu universel, parce que c'est les conditions qui posent problème, qui bureaucratisent le lien entre l'État et les citoyens.
C'est la multiplication des programmes. Hein. Mm-hmm. Donc, on a créé plusieurs programmes avec des clientèles très différentes. Mais dès que vous sortez un peu de ces situations-là, vous créez un nouveau programme. Hein. Donc, et à un moment ou l'autre, il faut simplement admettre le principe que tous les Québécois, tous les Canadiens devraient avoir droit un socle de revenus, même un socle modeste, et ensuite, ils peuvent construire sur ce socle-là d'autres revenus, bien sûr, comme c'est le cas, par exemple, avec la sécurité de la vieillesse au Canada. On a un programme quasi universel de sécurité de la vieillesse au Canada.
Oui.
Du jour au lendemain, si le gouvernement fédéral veut aider les personnes âgées, il peut augmenter ça, et ça se fait très rapidement.
Mais vous, si vous étiez au pouvoir à Ottawa ou à Québec, qu'est-ce que vous proposeriez là actuellement pour rapidement envoyer de l'argent aux Canadiens et aux Québécois?
Bien là, il y a urgence. Hein? On n'est pas en train de penser à la sécurité sociale du 21e siècle. Il va falloir y penser, cependant. Mais il y a une urgence. Et je crois que la solution du gouvernement fédéral qui a été annoncée là, hier, d'avoir ce mécanisme d'urgence qui est quasi universel, je pense que c'est la bonne solution. C'est bien mieux que le programme d'assurance emploi, même avec les conditions qui avaient été levées. Je crois que le gouvernement fédéral fait le bon choix. Ce n'est pas un programme parfait, un programme d'urgence, mais je crois que c'est à peu près la bonne solution.
Mais ça va être long avant que les Québécois et les Canadiens reçoivent l'argent. Le site web le 6 avril, après ça, ça va prendre 10 jours avant.
On aurait aimé que le fédéral ait cette idée-là il y a 2 semaines.
Oui, c'est ça.
Plutôt qu'envoyer les gens à l'assurance emploi, et ensuite dire, mais non, finalement, on va aller vers autre chose. On aurait préféré, tout le monde, le fédéral aussi, j'en suis sûr, nos représentants, auraient préféré avoir cette idée-là il y a 2 semaines, parce que je pense que l'argent serait à peu près disponible aujourd'hui.
Alors, Québec solidaire dit, ben, le gouvernement du Québec, maintenant, devrait pallier, devrait tout de suite instaurer un revenu universel d'urgence. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition?
Mais, déjà, ce que fait le fédéral, c'est quand même assez bien. Je pense qu'on le reconnaît. Tardif, mais en termes de somme, c'est assez bien. Très coûteux. Ça va aller à des clientèles, on sait, qui ne sont pas nécessairement prioritaires, mais parce que c'est l'urgence, on y va. Est-ce que le Québec doit faire de même? Bon, il faudrait évaluer le coût de ce programme-là. En ce moment, il est impossible à évaluer. La proposition de Québec solidaire est impossible à évaluer. Et en plus, disons, y aller sur la bonne foi des gens, c'est peut-être pas l'idée, là. C'est une idée qui est un peu dangereuse et qui peut même créer des tensions là, dans la société. Alors moi, je serais prudent avec ce type de proposition-là. À long terme, instaurer une forme d'allocation universelle, un revenu de sorte, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, il faut bien le faire, il faut le faire de façon crédible, en intégrant bien la proposition à la fiscalité.
Oui, mais je me souviens quand on a commencé à discuter de tout ça il y a une vingtaine d'années, vous et moi, François Blais, vous disiez, ça prend une allocation universelle et pour ce faire, il faut éliminer tous les autres programmes.
Non, donc, non, il faut faire attention.
C'était l'idée de Philippe Van Parijs, qui est un de vos inspirateurs.
Oui, c'est-à-dire que pour financer une allocation universelle dans un pays riche comme le nôtre, on n'a pas besoin d'ajouter de l'allocation à tous les programmes qui existent. Et c'est vrai que ce serait une bonne idée. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait trop de programmes, que c'était difficile de s'y retrouver. Donc, ce serait une bonne idée, et c'est comme ça qu'il faut le faire, de substituer l'allocation universelle à certains programmes importants. Par exemple, prenons le cas d'une proposition très concrète qui a été faite en 1985. On aurait dû suivre l'avis de cette proposition-là. C'était la commission McDonnell sur l'avenir de l'économie au Canada, compte tenu qu'on voulait aller vers le libre-échange avec les États-Unis et donc vers la mondialisation. La commission McDonnell proposait d'abolir l'exemption personnelle de base que vous et moi, là, on demande quand on fait notre rapport d'impôt et de transformer cette exemption personnelle de base, qui est le premier revenu minimum garanti au Canada. Ça date de 1917. À l'époque, c'était 1 000 par année. Mais c'est la première forme de revenu minimum garanti au Canada. Et de transformer cette exemption-là en un crédit d'impôt remboursable à chaque mois. L'impact serait très positif, notamment chez les plus défavorisés. Et ensuite, on peut progressivement intégrer d'autres programmes, mais il faut le faire très progressivement. C'est le défi, c'est le principal défi, parce que sinon, on va trop vite, il pourrait y avoir de nombreux perdants dans ces transformations.
Ah oui. Mais à long terme, avec la transformation du monde du travail et peut-être d'autres crises comme celles que nous vivons actuellement, ça serait une bonne affaire, si je comprends bien.
Ben, oui, ça ne veut pas dire que ce serait la solution à tout. Moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce revenu socle pour l'ensemble des citoyens, de la même façon que c'est nécessaire d'avoir une assurance santé et des programmes et l'accès aux hôpitaux pour l'ensemble des citoyens. Mais cependant, c'est possible que dans des situations très particulières qui touchent certains groupes particuliers, qu'il faut avoir des mesures ad hoc. Hein. Un n'empêche pas l'autre.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Par exemple, même dans une société où il y aurait une allocation universelle, il faudrait maintenir un programme d'assurance-emploi. Oui. Parce que l'allocation universelle ne serait pas aussi généreuse et ne vise pas à se substituer complètement aux autres revenus. Donc, ceux qui perdent leur emploi devraient avoir accès à une assurance-emploi. Cette assurance-emploi serait dessinée très différemment, justement parce qu'il existe maintenant un revenu socle au sein de la société.
Ah bon, OK. Et vous, comment se passe le retour à la vie universitaire?
Écoutez, je vais très bien. Donc, j'ai été très bien accueilli par mes collègues. J'ai retrouvé mon département, le département de sciences politiques, de mon centre qui avait beaucoup changé, qui avait beaucoup rajeuni. Donc, j'ai d'excellents collègues. L'idée pour moi, c'était de me mettre un petit peu au travail au niveau intellectuel, de recommencer le travail intellectuel. J'avais été cadre universitaire, doyen, ensuite, disons, politicien. Et là, j'ai trouvé un objet de travail là, qui me fascine beaucoup, là, parce que je suis un professeur de philosophie politique avant tout. Donc, je travaille en ce moment sur les théories contemporaines de la démocratie, les différentes façons de justifier de critiquer aussi les conceptions de la démocratie qui sont en place un peu partout dans le monde et dans la littérature, en philosophie politique.
Et comment votre pratique démocratique comme politicien a changé votre vision de ça?
C'est fort utile de voir comment la politique se fait concrètement, comment les élections se font. Hein. Donc, quand on est professeur de sciences politiques, on n'est pas des praticiens nécessairement, hein, surtout quand on enseigne la philosophie politique. Donc, le show a été, pour moi, l'expérience a été extrêmement utile. J'essaie d'en faire bénéficier de façon non partisane, bien entendu, là, les étudiants.
Vous ne militez plus au Parti libéral du Québec?
Non, je suis membre encore, et puis parfois je parle à d'anciens collègues, ça fait toujours plaisir. Moi, je pense que c'est important. Donc, l'engagement politique, c'est une bonne chose. Il y a différentes formes d'engagement politique, je le reconnais. Mais donc, je suis encore content d'être membre du Parti libéral et parfois d'avoir des discussions avec d'anciens collègues sur des idées. Serait-ce l'avenir de la sécurité du revenu et de l'allocation universelle ou d'autres enjeux, par exemple, sur la démocratie aujourd'hui?
Merci beaucoup, François Blais.
Bonne chance à vous.
Merci. Je le répète, François Blais est professeur de sciences politiques à l'Université Laval, ancien ministre de l'Éducation, entre autres, et vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous dire. Cube Radio.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Alors, au bout du fil, il y a Marine Dumont, administratrice du conseil d'administration de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a beaucoup de parents qui sont confinés à la maison avec leurs enfants. Évidemment, les écoles sont fermées. Pour vous, est-ce que ça change le quotidien?
Oui, évidemment, pour les familles qui font l'école à la maison, ça change notre quotidien, pas forcément dans la même mesure, dans le sens où c'est des parents qui sont habitués à passer beaucoup de temps avec leurs enfants, mais ça change parce que beaucoup d'activités des familles qui font l'école à la maison se situent en dehors du domicile.
Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure hors des ondes, puis c'est ça qui est étonnant. On a l'impression, quand on dit l'éducation à domicile, que ça se passe à domicile, mais ce n'est pas vraiment le cas, en tout cas dans votre cas.
Oui, puis dans le cas de beaucoup de parents, il y a énormément d'apprentissages qui se font en dehors du domicile, dans les musées, dans les associations communautaires, dans des regroupements de parents. Il y a énormément de regroupements de parents qui se rencontrent sur des bases régulières. Donc tout ça, ça se passe à l'extérieur du domicile.
Par exemple, donnez-nous des exemples de sorties qui sont forcément annulées là, cette semaine pour vous.
Alors, toutes les sorties au musée, au théâtre sont évidemment annulées. On a des enfants qui font des activités extrascolaires, de la gym, de la danse, des cours de musique. Tout ça est annulé également. On a des rencontres hebdomadaires avec une vingtaine de familles qui font l'école à la maison, moi, à Montréal. Ça, c'est annulé également. On est en train d'essayer de se retourner pour transformer ça en rencontre virtuelle, mais ça prend un temps d'adaptation.
Quel conseil vous donnez aux parents qui ont des enfants à la maison, qui voudraient continuer finalement ou poursuivre l'éducation qui est donnée à l'école ordinairement?
Alors, je commencerai par dire, puis reprendre les termes de la directrice de la caisse, c'est de prendre une grande respiration. Faire une pause de 1-2 semaines, c'est pas ça qui va modifier tout le parcours de votre enfant. Et qu'il faut savoir que les apprentissages se font dans tous les aspects de la vie. Alors, ce que je conseille, c'est d'être très à l'écoute de son enfant, dans le sens qu'il y a des enfants qui auront besoin d'un planning, d'un emploi du temps plus structuré pour les rassurer. Et il y en a d'autres qui bénéficieront d'avoir quelque chose de plus flexible, avec des activités peut-être plus éducatives, plus académiques, entrecoupées de moments de jeu plus libres.
Est-ce qu'il y a des modèles? Par exemple, on sait qu'en France, la télévision va être mobilisée pour aider les parents qui sont à la maison à continuer à finalement faire l'école à la maison pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce que la France est un modèle? Est-ce que ce qui s'en vient au Québec, ça vous réconforte?
Il y a eu des annonces au Québec comme quoi certaines télévisions, Télé-Québec, je pense, allaient proposer du contenu éducatif. En tout cas, les programmes allaient être adaptés. Je pense que les professeurs vont probablement être appelés à peut-être fournir des activités qui vont rester, de ce que j'en comprends de M. Roberge, facultatives. pour le cas de la France, les échos que j'en ai, c'est que beaucoup de parents trouvent ça très lourd, toutes ces choses à imprimer puis à renvoyer à l'enseignant. Alors, on est dans une situation particulière. Beaucoup de parents ont à gérer du télétravail, à gérer de l'anxiété financière, etc. Donc, il ne faut pas trop s'en mettre non plus.
Est-ce que la France en met trop, donc, sur les épaules des parents?
De ma perception et des échos que j'en ai, c'est qu'il y en a beaucoup sur le dos des parents avec d'autres exigences de télétravail et autres.
Par exemple?
Mais par exemple, j'ai eu l'écho de familles qui ont des exercices à faire avec leurs enfants de manière quotidienne et gérer cet élément-là avec des parents qui sont peut-être un petit peu déconnectés de ce que fait leur enfant au jour le jour à l'école ou qui ont peut-être moins de patience ou une espèce de pression pour fournir du travail. Alors là, ça crée des difficultés qui vont retomber sur l'ambiance familiale.
Est-ce qu'on peut dire que vous, les parents qui font l'école au domicile, à la maison, vous êtes avantagés dans cette situation actuelle?
Je pense qu'on peut dire que chacun peut trouver ses avantages. Je pense qu'on est avantagé dans le sens où on a l'habitude de passer beaucoup de temps avec nos enfants. Donc, tout ce qui concerne peut-être la gestion de changement d'activité toute la journée, de savoir proposer des activités qui allument les enfants, puis d'avoir déjà des intentions pédagogiques, puisque c'est des projets d'école maison, le parent a réfléchi à l'intention pédagogique avec ses enfants.
Mmh. Le débat au Québec autour de l'éducation à domicile, c'est souvent la peur que ce soit une façon de contourner les contenus obligatoires de l'école québécoise, donc de favoriser une sorte d'éducation illégale pour certains groupes religieux. Qu'est-ce que vous répondez à ces craintes-là pour l'école à domicile?
En dehors de tout contexte de COVID-19 actuel,
oui, bien sûr, oui.
oui, je pense qu'effectivement, c'est des craintes qui ont été... Il faut savoir que l'école à la maison au Québec est encadrée. Il y a un règlement qui est actuellement appliqué. Il y a un suivi des familles avec beaucoup d'étapes à remplir au cours de l'année, avec notamment des contenus à enseigner qui sont basés sur le programme québécois de formation.
Est-ce qu'il est possible de suivre ce programme-là actuellement?
Alors, ça prend déjà une connaissance du programme. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le programme de formation de l'école québécoise, mais c'est un gros, gros, gros document. Donc, il faut se l'approprier. C'est tout à fait courant que des enseignants n'enseignent pas l'ensemble du programme. Donc, ce qui est admis, c'est qu'on doit aller remplir, en tout cas, essayer de rencontrer le maximum possible les objectifs du programme. Il y a des compétences. Si je peux prendre un exemple, par exemple, en français, il s'agit de développer la compétence de lire des textes variés. Alors ça, c'est tout à fait quelque chose qui peut se faire à la maison.
Oui, oui. Croyez-vous qu'il devrait y avoir une suspension complète de l'année scolaire avec ce qui se passe actuellement, ou est-ce qu'il est possible de réchapper ça en faisant une part de l'école à la maison?
Je pense que, comme je disais tantôt, c'est mettre beaucoup de pression sur les parents de s'attendre à ce qu'ils complètent la même chose qui serait faite à l'école. Je pense que ça ouvre la possibilité à faire d'autres apprentissages, peut-être un petit peu plus différents de ce qu'on fait à l'école, d'explorer d'autres domaines. Je pense que tout dépend quand l'école va officiellement recommencer. Alors, c'est sûr que si on parle de début mai, ça laisse peut-être le temps aux professeurs de rattraper tout ça. Mais ça me paraît quand même compliqué. Il y a d'autres provinces comme l'Alberta qui ont déjà annoncé que la fin d'année était suspendue.
Oui, oui, OK. Bien, écoutez, Mme Dumont, je vous remercie beaucoup. Bonne chance avec vos enfants. Vous en avez combien, vous, à la maison?
J'en ai deux.
Très bien. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance dans cette crise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci. Bonne journée.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.